il est 7h.
C'est peut-être la première fois de ma vie où je suis fier, et croyez-moi, fier de moi. J'aurais jamais pensé que je pouvais être un des acteurs de ce genre de scène-là. On va faire la fête, quoi.
La fierté de l'entraîneur de Lille hier soir, Christophe Galtier et ses hommes sacrés champions de France de football. C'est à la une ce matin. Le coup de force de la Biélorussie contre l'un de ses opposants, l'avion de ligne à bord duquel il avait pris place, a été intercepté. Indignation de la communauté internationale. Dans ce journal aussi, la relance post-confinement et des commerces qui espèrent faire le plein en ce jour férié. Nous serons à Strasbourg dans un instant. Et puis la polémique à l'Eurovision, soupçon de consommation de cocaïne du vainqueur italien. Une affaire qui ne changera rien au vote pour la dauphine française Barbara Pravi, que vous entendrez juste après ce journal. L'éclairage écho, Nicolas Barré, avant le regard international, Vincent Hervouette.
Oui, avec cette provoque de la Bélarusse qui détourne un avion de ligne pour arrêter un opposant qui se trouvait à bord, avec cette piraterie aérienne, Alexandre Loukachenko atteint le point de non-retour.
L'édito sport, Virginie Fulpin.
Alors, Lille, champion de France de football, ce sont les Lillois qui sont allés chercher ce titre, pas le PSG qui l'a perdu.
Et puis avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un mot ce matin à la une de la Voix du Nord. Champion et deux images. Celle des joueurs bras levés sur la pelouse d'Angers après leur victoire 2-1 et leur sacre. Image aussi de la Grand Place de Lille, rougeoyante à la lumière des fumigènes. Les supporters venus par centaines pour fêter ce premier titre depuis 10 ans et 7 interpellés à l'issue de cette soirée.
Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour à tous.
Vous êtes le chef du service des sports d'Europe 1 et vous nous avez fait vivre la consécration des Lillois. C'était hier soir, consécration logique Jean-François.
Oui, alors c'est logique, mais c'est extraordinaire parce que cette équipe n'était pas faite pour jouer le titre. C'est le quatrième seulement de son histoire. Et en fait, elle s'est découvert des qualités et des ambitions au fil des semaines. Elle a montré des qualités de cœur énormes à l'image de son attaquant turc, Burak Yılmaz, un buffle sur le terrain, un leader mental en dehors. Le tout, sans avoir payé le moindre transfert, il était arrivé libre cet été à Lille. Et puis, c'est le triomphe de celui qui a été élu meilleur entraîneur de la saison, normal. Christophe Galtier, qui depuis 4 ans à Lille a traversé toutes les tempêtes, il a géré magistralement un effectif hétéroclite, sans oublier la pression croissante au fil des mois. Mais restera-t-il à Lille? Rien n'est moins sûr, car Lille a connu pas mal de péripéties cette saison, des problèmes financiers, un changement d'actionnaire. Galtier était proche de l'ancienne équipe. Il ne dément pas les rumeurs qu'il envoie ce matin prioritairement à Nice. Il devrait voir ses dirigeants ce matin. Olivier Létang, notre invité tout à l'heure, nous en dira peut-être plus.
Vous restez avec nous, hein, Jean-François Pérez. On va, avant de s'intéresser aux autres enseignements de cette ultime journée de la Ligue 1, on va revivre d'abord le sacre lillois avec Cyril de la Morinerie, au plus près des joueurs.
Oui, après les larmes du colosse Burak Yılmaz au coup de sifflet final, on a assisté à des scènes de liesse. Plusieurs joueurs du LOSC ont notamment débarqué par surprise en conférence de presse. Douche de champagne pour leur entraîneur, Christophe Galtier. Les joueurs torse nu et survoltés s'emparent alors des micros. Le milieu lillois Boubacary Soumaré s'improvise journaliste et interroge son coéquipier Timothée Weah.
Mais okay. c'est qui les champions?
Christophe Galtier est plus dans la retenue. Le désormais champion de France, sacré meilleur entraîneur de Ligue 1, savoure avec émotion le plus grand moment de sa carrière.
Mais c'est peut-être la première fois de ma vie où je suis fier. Et croyez-moi, fier de moi. Chaque année, j'ai vu ces images-là. J'aurais jamais pensé que je pouvais être un des acteurs de ce genre de scène-là. On va faire la fête, quoi.
Une fête qui ne faisait que commencer à leur sortie du stade. Les joueurs ont été acclamés par une trentaine de supporters.
Et la fête se poursuivra cet après-midi à 16h30 avec une déambulation dans la ville à bord d'un bus impérial. Jean-François Pérez, vous êtes toujours avec nous. Un grand vainqueur donc, mais aussi beaucoup de déçus ce matin.
Oui, alors le grand perdant de la saison, c'est évidemment le Paris Saint-Germain. Un seul trophée cette saison, la Coupe de France, c'est notoirement insuffisant quand on possède des stars internationales dans tous les secteurs de jeu, de Navas à Neymar. La seule consolation, elle est maigre, c'est quand même Mbappé qui a été élu meilleur joueur de la saison, meilleur buteur de Ligue 1 avec 27 réalisations. Sera-t-il encore parisien cet été? La tendance est favorable ce matin, mais un doute subsiste quand même. Ensuite, il y a Lyon, et là c'est pire que le Paris Saint-Germain parce que cela a davantage de conséquences. L'OL est est quatrième, doublé par Monaco sur le fil, privé pour la deuxième saison consécutive de Ligue des Champions. C'est une petite catastrophe industrielle pour un club qui ne possède pas les moyens illimités du Paris Saint-Germain. Il va perdre des dizaines de millions d'euros alors que la situation financière des clubs est critique et l'entraîneur Rudy Garcia a d'ores et déjà annoncé son départ. On citera enfin Nantes, club historique, qui va devoir jouer sa place en Ligue 1 en barrage face à Toulouse. Bordeaux maintenu, mais en grande difficulté financière. Et puis Nîmes, dont le...
Jean-François Pérez, qu'on a perdu.
Et puis Nîmes, qui est 19e relégué avec Dijon, 20e.
Voilà, et dont l'avenir s'inscrit vraiment en pointillé. On retiendra aussi que Brest, Lorient et Strasbourg ont arraché hier soir leur maintien.
7h05 sur Europe 1. La méthode est radicale, pour le moins, et les réactions jusqu'à présent unanimes. Hier, un avion de chasse à l'appui. La Biélorussie a intercepté un avion de ligne à bord duquel se trouvait l'un des principaux organisateurs de la contestation contre la réélection du président Loukachenko.
L'appareil qui reliait Athènes à Vilnius a été dérouté vers Minsk alors qu'il survolait l'espace aérien biélorusse, motif invoqué par les autorités, une alerte à la bombe invraisemblable pour le consultant aéronautique Xavier Tittelmann.
Là, en l'occurrence, l'avion était plus proche de sa destination Vilnius que de Minsk. Donc, ordonner à un avion de faire un détour pour aller se poser plus loin sous prétexte d'une alerte à la bombe, personne n'y croit. Dans les règles de l'air, c'est absolument pas crédible. Et en termes de sécurité aérienne, c'est à l'opposé de tout ce qu'on peut attendre d'une police du ciel. La seule option pour que des avions chasse viennent intercepter un avion de ligne, c'est en général que sa radio ne fonctionne plus. Il y aurait une panne radio. C'est assez rare pour les avions de ligne classiques. Ou la deuxième option, ce serait qu'un avion ne suive pas sa route normale, qui va voler trop bas, trop haut, ou aller dans une destination qui n'est pas prévue. Mais là, c'est un détournement. L'avion, par la contrainte, il a été forcé de se poser là où il n'avait pas envie de se poser. C'est clairement une agression de la part de la Biélorussie vers des compagnies aériennes classiques et des civils.
L'analyse du consultant aéronautique Xavier Tittelmann.
L'Union européenne pourrait aujourd'hui décider de prendre des sanctions. Les États-Unis, de leur côté, demandent la libération de l'opposant qui n'a pas repris place lors du décollage de l'avion.
En Italie, l'accident de téléphérique hier près du lac Majeur dans le nord du pays a fait une 14e victime. Un des deux enfants rescapés a succombé à ses blessures.
7h07 sur Europe 1 avant l'ouverture à tous lundi prochain. Nouvel élargissement dès aujourd'hui de la campagne de vaccination.
Avec les enseignants, caissiers, forces de l'ordre, chauffeurs de bus ou de taxi qui, quel que soit leur âge, pourront avoir accès de façon prioritaire aux injections. À partir d'aujourd'hui aussi, médecins et pharmaciens qui ne disposaient jusque-là que de doses d'AstraZeneca pourront proposer de vacciner au Moderna.
Ce lundi férié sur lequel compte aussi un certain nombre de commerçants qui ont décidé de rester ouverts pour profiter de la reprise de la consommation post-déconfinement. Illustration ce matin à Strasbourg, Arthur Mbaché pour Europe 1.
Accentuer la dynamique positive du déconfinement. C'est pour ça que Nelly et Nathalie ouvrent leur boutique ici à Strasbourg en ce lundi de Pentecôte.
Les personnes qui ont la possibilité de pouvoir venir faire un petit peu de shopping auront le bonheur de pouvoir nous voir dans les boutiques, nous les petites vendeuses et les petits vendeurs.
Avec un peu de chance, les gens seront en week-end, pas forcément partis, et auront peut-être le temps de passer nous voir. On espère. Puis s'il fait beau, les gens seront en terrasse, vu que les terrasses sont ouvertes, ça aussi c'est agréable. On croise les doigts.
Sophie a l'intention de profiter de cette journée pour faire les boutiques.
Ah ben moi je le trouvais extraordinaire parce que bon, les gens étaient privés et le fait que les commerces s'en ouvrent, ça va refaire marcher l'économie. Et là, ça remet du baume au cœur, on revit.
Aujourd'hui, c'était la moins mauvaise date pour caser la journée de solidarité, dit Pierre Bardet, des vitrines de Strasbourg.
Donc on avait prévu le samedi 8 mai. Pas de chance, c'était fermé. Je me suis dit, il y a le joker du jeudi de l'Ascension, fermé. Donc, il nous a paru important plutôt que d'attendre plus tard. Parce que l'année dernière, on s'est fait avoir. On l'avait prévu le 11 novembre. Et rebelote, reconfinement. Donc là, pour moi, ce qui est pris, est pris.
95% des boutiques strasbourgeoises ont décidé de jouer le jeu et seront ouvertes aujourd'hui. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe.
Eux vont discuter pour la deuxième fois. Ce lundi, les représentants de la gauche réunis en visioconférence. Nouvelle étape dans la tentative de rapprochement à un an de la présidentielle. Les précisions pour Europe 1 de Claudia Bertram.
La semaine dernière encore, certains participants à la première réunion n'étaient pas vraiment au fait de cet acte 2. Une réunion pour parler de fond, avec cette fois-ci l'audition de plateformes citoyennes. Certains plus que d'autres avaient d'emblée affiché leur volonté de travailler à l'Union, comme l'écologiste Yannick Jadot et Olivier Faure, le patron du PS qui était l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 hier.
Il y a des gens, nombreux, pour ne pas dire très majoritaires à gauche, qui souhaitent le rassemblement, qui souhaitent le faire sur des bases qui soient des bases les plus claires possibles. Est-ce qu'on sera en accord sur tous les sujets ? Non. Est-ce qu'il y aura des divergences qui subsisteront ? Oui.
Mais seront-elles surmontables ? Nous, on y va très clairement pour demander des explications, martèle l'insoumis Éric Coquerel, en référence à la manifestation des policiers la semaine dernière, qui a cristallisé les divisions à gauche sur la question sécuritaire. Jean-Luc Mélenchon, qui critique régulièrement la volonté d'union, ne sera sans surprise pas présent. Les écologistes qui se sont réunis hier avant la réunion d'aujourd'hui ont réaffirmé leur volonté de rassembler autour de l'écologie politique. Bref, le chemin est encore long avant de parler d'union.
Claudia Bertram.
C'est presque un contrôle antidopage auquel va se soumettre aujourd'hui le chanteur italien Sacré avec son groupe Maneskin samedi soir à l'Eurovision. En tout cas, une façon de répondre aux soupçons de prise de cocaïne en direct à la télévision.
Alors, le résultat de ce test va-t-il avoir des conséquences sur le classement ? Rien ne le justifie pour la Française Barbara Pravi, arrivée deuxième, qui a balayé hier soir la polémique sur le plateau du 20h de France 2.
Premièrement, je m'en fiche un peu. Ouais. Et deuxièmement, ce que je trouve, ça, c'est des choses qui me concernent pas. Et surtout, ce que je trouve, ce qui est réel, c'est que ce sont des gens qui ont été élus et par le public et par le jury. Donc après, s'ils se droguent, s'ils ont mis leur slip à l'envers ou ce machin, je veux dire, c'est pas vraiment mon problème.
L'agréable voix de Barbara Pravi hier soir sur France 2.
Deux choses. D'abord, on est arrivé deuxième à l'Eurovision. Alors, certes, on n'a pas gagné la France, mais quand même, deuxième à l'Eurovision, on est plutôt habitué du deuxième parti de tableau en général. Cela dit, cette histoire, c'est incroyable. C'est la première fois qu'un artiste va être testé pour dopage. Pour le sport, on connaît, mais pour les artistes, c'est quand même assez inédit à suivre cette polémique de l'Eurovision. Merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h11.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Lille, champion de France de football, 10 ans après leur dernier sacre, coiffant le PSG au poteau, suspense haletant jusqu'à la dernière journée, la dernière minute presque. Ce matin, en exclusivité, le président du LOSC, le président lillois, Olivier Létang, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et les actionnaires se rebiffent, ils forcent les entreprises, vous allez voir, à faire plus pour le climat.
Ce sera juste avant le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h15 sur Europe 1, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. Alors chaque année, à cette époque, les entreprises réunissent leurs assemblées générales d'actionnaires. Et cette fois, la question du climat est devenue centrale.
Oui, alors avec un cas emblématique, il n'est pas du tout le seul, c'est celui de Total. Un groupe d'investisseurs dans lequel on se trouve des fonds de pension étrangers, mais aussi des gérants d'épargne français, veut profiter de l'assemblée des actionnaires pour demander à Total d'aller encore plus loin dans sa stratégie climat, comme on dit. Le groupe pétrolier a pourtant pris des engagements forts en faveur de la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais pour ses actionnaires, ça ne suffit pas.
Et vous le disiez, le mouvement dépasse largement Total.
Exactement, c'est en train de devenir en quelque sorte la nouvelle normes. Les grands gérants d'épargne mondiaux qui détiennent plus de la moitié du capital du CAC 40 sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des entreprises. Ils utilisent le pouvoir de l'argent pour dire aux dirigeants des grands groupes « Eh bien, soit vous faites plus pour lutter contre le réchauffement climatique, soit nous vous mettons en minorité. » Et leur pouvoir est considérable. Plusieurs centaines d'investisseurs du monde entier ont formé une coalition qui s'appelle Climate Action 100+. Et collectivement, eh bien, ils pèsent plus de 50 000 milliards de dollars. Alors, pour situer les choses, l'ensemble du CAC 40 vaut un peu plus de 2 000 milliards de dollars. Donc vous voyez, on a intérêt à les écouter.
Et eux, 50 000 milliards, donc 25 fois plus. Ce que vous nous dites, c'est que la finance est en train de devenir un moteur dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Il n'y a pas de mystère. Vous savez, dans un système capitaliste, les détenteurs de capitaux, les actionnaires, les épargnants ont le pouvoir et ils l'exercent. Ce à quoi on assiste, c'est tout simplement au fait que l'argent va là où la transition énergétique avance. Cette pression des actionnaires est une incitation très forte à accélérer les efforts. Beaucoup plus forte d'ailleurs qu'un énième texte de loi. Le secteur privé est en train de prendre à bras le corps la question du climat et quand on sait l'efficacité dont il est capable, on peut se dire que ça aura un vrai impact.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui nous raconte tous les matins le monde qui change. Vous restez avec nous à 7h17, nous retrouvons Vincent Hervouet et son regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
La Biélorussie oblige un avion de ligne à se poser à Minsk et arrête un opposant politique qui se trouvait à bord.
Oui, ça fait près de 30 ans que le camarade Loukachenko règne sur le Bélarus. On ignorait qu'il régnait sur la terre comme au ciel. Mais il a suffi qu'il ordonne et un Boeing de la compagnie Ryanair qui passait au-dessus de sa tête a dû se poser à Minsk. Le vol Athènes-Vilnius remonte toute l'Europe sans escale. Un avion de chasse l'a obligé à détourner sa route. Le prétexte, eh bien, des passagers prétendaient qu'il y avait une bombe à bord. une fois l'appareil au sol, la police biélorusse n'a trouvé aucun engin explosif. En revanche, elle a arrêté une bombe humaine, un passager impliqué dans des actions terroristes. C'est comme ça que le régime présente Roman Protasevich. Il a 26 ans, c'est un opposant. Il a tout de suite compris ce qui se passait. Il était rédacteur en chef du site Nexstar qui a couvert, qui a coordonné et fait connaître les manifestations monstres contre Loukachenko l'été dernier.
C'est un acte de piraterie aérienne.
Alors c'est une opération cousue de fil blanc, on se croirait dans Tintin au pays des soviets. Au Bélarus, il y a encore des commissaires politiques, les services secrets s'appellent toujours le KGB, et tant qu'à faire, le camarade Loukachenko aurait dû garder l'appellation d'origine, le GPU, quand les bolcheviks traquaient les tsaristes en exil. L'arrestation spectaculaire de Protasevich est comme l'empoisonnement d'Alexis Navalny, la preuve que nul n'est à l'abri de la police secrète. Avis aux opposants qui s'agitent en Lituanie et en Pologne. Mardi dernier, le président avait ordonné aux cadres des services de sécurité de ne pas faiblir face à l'ennemi. Alexandre Loukachenko a de la nostalgie pour l'époque où il dirigeait un sauve-cause et s'imagine toujours à la tête d'une ferme collective avec le fusil à la main et partout des voleurs de poules.
Un conseil européen se réunit tout à l'heure, est-ce qu'il va le sanctionner ?
Il y a 20 ans déjà, la secrétaire d'État américaine l'accusait d'être le dernier dictateur d'Europe. Le monde a oublié Condoleezza Rice, mais Loukachenko est toujours là. Dans son discours sur l'état de l'Union, le mois dernier, Vladimir Poutine n'a cité qu'un seul pays étranger, le Bélarus, pour dénoncer un complot contre Loukachenko. On voit que la nouvelle guerre froide a rejeté cet hibernatus dans les bras du Kremlin. Elle est en train de faire muter un régime autoritaire en dictature à la nord-coréenne.
Vincent Hervouet, le regard international, et on va en reparler hein, bien sûr de cette affaire dans le journal de 8h tout à l'heure sur Europe 1. Merci Vincent, 7h19, vous restez bien sur Europe 1 dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin, et juste après notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Dans l'actualité, on navigue entre rêves et cauchemars. Mais d'où viennent les rêves et les cauchemars?
La réponse dans quelques toutes petites minutes. Montez le son, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Lille est champion de France de football. Le LOSC, vainqueur 2-1 à Angers lors de cette dernière journée de Ligue 1 hier soir, finit un point devant le Paris Saint-Germain, un point seulement, et arrache le quatrième titre de son histoire. Pour vous, Lille a une belle tête de vainqueur. Et c'est bien le LOSC qui a gagné le titre, pas Paris qui l'a perdu.
Faut avoir les nerfs solides pour aller chercher un titre au bout du bout de la saison. 38 journées, 114 points possibles, et à la fin, un petit point, un seul qui vous sépare de votre dauphin. Un point pour l'histoire, un point d'honneur, un point c'est tout. Lille n'était pas le favori de la Ligue 1 quand la saison a démarré. Mais comment l'être quand on fait face au PSG? Comment rester mobilisé chaque semaine face au vide des tribunes? Comment faire bloc dans un football français secoué par la tempête? Christophe Galtier a su trouver les réponses. Ce titre de champion de France, c'est d'abord le sien, celui d'un coach élu meilleur entraîneur de France par ses pairs, celui qui a su former une équipe, dégager un collectif et emmener ses troupes vers la victoire avec une finesse psychologique rare. Lille, oui, a une belle tête de vainqueur parce que c'est magnifique de voir une équipe s'imposer au bout du suspense. Mais aussi parce que LOSC revient de loin des tréfonds du classement en 2018 au sacre d'hier soir. C'est une remontée fantastique que nous ont offert les Lillois. Le genre d'histoire que les supporters raconteront à leurs enfants avec les yeux rougis et le cœur qui s'emballe. Un collectif, des nerfs à toute épreuve, des pronostics déjoués, un coach qu'on suivrait au bout du monde. On n'a pas de quoi être fier tous les jours du football français, mais au moins, il a un beau champion.
Alors, je repose la question, est-ce que c'est Lille qui a gagné le titre ou le Paris Saint-Germain qui l'a perdu?
En fait, moi, j'ai pas envie de me la poser, cette question-là. Je vois pas pourquoi on rabaisserait forcément la performance de Lille en l'expliquant par les faux pas du PSG. Évidemment que sur le papier, les Parisiens sont plus forts. Ça veut dire quoi, sur le papier? Pas grand-chose. Vous pouvez aligner toutes les stars que vous voulez. Ça reste sur le terrain qu'on gagne et qu'on perd les matchs. En l'occurrence, c'est Lille qui en a le plus gagné. C'est Lille qui s'est montré le plus fort dans ses duels face aux autres prétendants au titre, en ne perdant jamais contre ses trois rivaux directs. Quand Paris se prenait les pieds dans le tapis quasiment à chaque fois qu'il fallait affronter les gros bras du championnat.
C'est vrai.
Le LOSC a donc été plus fort cette saison. Il a tracé son chemin et peu importe ce que faisaient les autres à côté finalement. Lille fait maintenant partie de ces équipes qui ont réussi à contester la suprématie du PSG. Mais cette équipe n'est pas sacrée uniquement à cause des errements des autres. Cette équipe est allée chercher son sacre comme une grande.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport, et c'est la hiérarchie qui est révisée aussi. Le PSG n'est pas champion, mais c'est Lille. Et puis l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais qui ne seront pas en Ligue des Champions la saison prochaine.
Mais en Ligue Europa.
En Ligue Europa, c'est Monaco qui s'est qualifié et qui finit troisième de ce championnat. Merci, c'était l'édito sport, Virginie Fulpin. 7h25, l'heure de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors, pour celles et ceux qui se réveillent à peine, j'espère qu'ils et elles ont fait de doux rêves. Pour les autres, je leur propose qu'on s'attarde sur l'origine du mot cauchemar.
Merci Stéphane de nous faire commencer la semaine de façon aussi positive. Est-ce que vous pouvez aussi avoir un petit mot sur les rêves au nom de la parité?
Oui, Mathieu, vous savez que je ne peux rien vous refuser, n'en abusez pas tout de même. Commençons quand même par les cauchemars. C'est un mot qui survient au Moyen-Âge. Cauche, ça vient de cauchier. En ancien français, cela voulait dire pressé. Et mar, c'est du néerlandais, c'était un démon appelé Mara, qui avait la particularité de n'officier que la nuit. Pour ceux qui croyaient en cette divinité, c'était elle qui, une fois la nuit tombée, venait vous étouffer, expliquant parfois « Eh ben, on est essoufflé quand on se réveille suite à un cauchemar ». Notez que Mara est présent en Allemagne, parce que cauchemar se dit « Nachtmar ». Ainsi qu'en Angleterre, la nuit, on peut faire des « nightmare ». 1694 en France, on trouve des orthographes différentes selon les régions. On écrit « cauchemar » avec un « c » et un « o », mais finalement à la fin un « e » ou pas. Et selon les régions, l'appellation change aussi. On dit « coquevieille » à Lyon, « chauchivieilli » en Isère et « chaouchevieillio » dans le Languedoc. Avouez que c'était pratique. Alors parlons du rêve à présent. Le mot ne fait pas la différence entre ceux de la nuit et ceux de la journée quand notre esprit vagabonde. D'ailleurs, l'étymologie vient du latin vagus, le vagabond, celui qui erre ici et là. Au XIIIe siècle, on dit esve, puis resve. Ça veut dire rêver vient de aller ça et là pour son plaisir. Finissons avec une touche de poésie grâce à l'écrivain Marek Alter. Un rêve de beignet, c'est un rêve, pas un beignet. Alors qu'un rêve de voyage, c'est déjà un voyage.
Oh, c'est joli. Oh, c'est joliment dit pour le coup. On vous retrouve à 16h. Ça, c'est un autre voyage avec Mathieu Noël.
Oui, alors aujourd'hui, on réunit la peintre mexicaine Frida Kahlo, le pape du pop art Andy Warhol et la starlette Paris Hilton. Vous cherchez leur point commun. Ce sont des rois et des reines de l'autoportrait, parce qu'on n'est jamais mieux selfie que par soi-même.
Stéphane Bern, 16h-18h, c'est historiquement vôtre. Et Stéphane, qui est sympa d'être là avec nous ce matin, parce que quel week-end vous avez vécu, mon cher Stéphane. Samedi
l'Eurovision, et oui, à Rotterdam.
J'entends Stéphane Bern encore dans mon salon à minuit et demi. Appelez vos amis à l'étranger, dites-leur de voter pour la France.
On s'est bien battu quand même. On s'est super bien, enfin surtout Barbara, parce que nous on était dans la cabine des commentateurs.
Non, vous êtes battu. Non, vous êtes battu.
C'est vrai que voilà, la deuxième place n'était pas arrivée depuis 30 ans à la France.
Et puis on aura l'occasion de reparler de la polémique des Italiens. Y a-t-il eu un
ils nous ont battu sur la dernière ligne.
Oh joli.
Ils vont pas que regarder la raille.
Je vous laisse l'antenne, Stéphane, vous avez tout le week-end pour les Mathieu Hessel. 7h28, Laurent Cabrol, qui dit mieux?
Bon, ben pour nous, c'est le cauchemar en plein jour, je dois dire, parce que franchement, le temps, il est exécrable aujourd'hui, c'est une perturbation très large qui traverse la France, et après son passage, nous avons des averses et des orages. Vous voyez qu'on échappera pratiquement à rien aujourd'hui. Alors la perturbation arrive dans quelques minutes ou quelques 2-3 heures sur la Champagne Ardenne, la Lorraine, le Morvan, le Berry, le Limousin et l'Aquitaine. Elle est actuellement sur le Nord Picardie, le Poitou-Charentes et la région parisienne aussi. Et dans toutes ces contrées, nous aurons donc de la pluie encore, et après des orages et des averses ou des giboulées. En Alsace, en Franche-Comté, dans les Alpes du Nord et le Midi-Pyrénées, ça arrivera un petit peu plus tard dans l'après-midi ou la soirée. Et puis à l'écart un petit peu, le bassin méditerranéen, encore que la pluie se manifeste du côté de Toulon et de Nice avec violence. Partout, il fait très mauvais, il fera très mauvais aujourd'hui à un moment ou l'autre de la journée, des températures de 16 à 22 degrés. La seule bonne nouvelle que je puisse vous dire, c'est que ça ira mieux la fin de semaine et le beau temps revient.
Eh bien, si le meilleur est à venir, on prend. Laurent Cabrol, merci beaucoup et bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
C'est le début de la véritable campagne de vaccination en ville par les pharmaciens et les médecins avec ce vaccin Moderna. On aura un mois plein pour accélérer la campagne de vaccination.
On accélère la cadence avant les grandes vacances. Moderna arrive en pharmacie et double bonne nouvelle puisqu'on peut désormais se faire injecter deux doses de deux vaccins différents. Dans ce journal, également, on dressera le bilan de la saison du Paris Saint-Germain. Et puis, Plouc est fier de l'être, on parlera du groupe Oasis à travers un livre qui sort cette semaine.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec le président de Lille, Olivier Létang, tout juste sacré champion de France. France. L'édito politique, Mickaël Darmon.
Un moment festif à l'Élysée avec donc des youtubeurs, eh bien c'est la fin de la lutte des clashs.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, hein, il est 7h30.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc une bonne nouvelle sur le front de la vaccination. Moderna arrive en pharmacie aujourd'hui, comme le Pfizer, c'est un ARN messager. Victor Dolande, quelles sont les différentes étapes? Comment ça va se passer pour se le procurer?
Alors, il faut savoir que près de 15 000 pharmacies ont déjà passé commande. Chaque officine recevra 2 flacons du vaccin Moderna, des flacons qui contiennent 10 doses. Les premières livraisons sont prévues pour jeudi et les premières injections samedi, mais ça débutera véritablement à partir de lundi prochain. Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, estimait que les officines étaient sous-utilisées dans cette campagne de vaccination. Avec l'arrivée des vaccins Moderna, il est satisfait.
C'est le début de la véritable campagne de vaccination en ville par les pharmaciens et les médecins avec ce vaccin Moderna qui donc arrive le jour où on ouvre la campagne à tous les adultes. On aura un mois plein pour accélérer la campagne de vaccination.
Ce sont 300 000 doses qui seront administrées chaque semaine en pharmacie. Pour le grand public, aucune restriction. La règle est simple et claire. Première arrivée, premier servi. Donc si vous comptez sur ce vaccin Moderna pour être immunisé, vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher de votre pharmacien.
Les précisions de Victor Dolande pour Europe 1. Et puis une autre nouvelle encourageante, Anne Le Gall, on peut se faire injecter une deuxième dose d'un vaccin différent du premier, passé d'AstraZeneca à Moderna justement. Ce sont les scientifiques espagnols qui l'ont confirmé.
Oui, dans cette étude menée par l'Institut espagnol de la santé, 440 patients ont été suivis après avoir reçu un vaccin Pfizer puis une dose d'AstraZeneca. Ils ont eu quelques effets secondaires comme des maux de tête ou des frissons, mais rien de grave. Le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service d'immunologie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, n'est pas surpris par ces résultats.
Beaucoup de gens étaient inquiets pour cette piste, avaient l'impression que voilà, on faisait des choses un peu inhabituelles. On n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers, c'était une stratégie avec un vrai rationnel scientifique, et l'étude espagnole vient confirmer que la tolérance est bonne et que l'efficacité est plus qu'intéressante puisque le taux d'anticorps à la fin de l'étude est très important.
En combinant des vaccins différents, l'efficacité pourrait même être supérieure, mais il est encore trop tôt pour conclure. En France, des études permettront bientôt d'avoir des résultats complémentaires sur cette combinaison AstraZeneca puis Pfizer, mais aussi sur la succession de 2 vaccins à ARN messager différents.
Merci pour vos précisions. Anne Le Gall, quelques chiffres encore. Hier, on a franchi le cap des 23 millions de Français vaccinés. Dans les hôpitaux, les chiffres sont à la baisse. 3500 patients en réanimation et il y a moins de 20 000 hospitalisations désormais liées au Covid. Il faut remonter au 27 octobre 2020 pour retrouver ce niveau.
L'actualité à l'étranger, c'est ce terrible accident de téléphérique en Italie. Le bilan s'est alourdi.
Un des enfants a succombé à ses blessures, portant à 14 le nombre de morts. Un enfant est toujours dans un état grave. C'est le seul survivant de cet accident qui s'est déroulé sur les rives du lac Majeur. Le récit de Caroline Baudry.
C'est une ascension vertigineuse que propose ce téléphérique. Il relie en 20 minutes les bords du lac à Montarone à 1500 mètres d'altitude. Hier, 15 personnes embarquent à la mi-journée pour s'offrir une vue spectaculaire sur les Alpes. Mais 100 mètres avant l'arrivée, la cabine assez ancienne se met à reculer, puis chute de 15 mètres pour s'écraser sur un terrain boisé très escarpé. Malgré l'accès difficile, les secours arrivent sur place, puis la maire de la ville de Stresa, Marcella Severino.
La scène que j'ai eue sous les yeux, c'était un désastre. Cette cabine s'est écrasée contre ces arbres qui ont stoppé sa chute. Elle doit avoir fait quelques rebonds avant de s'arrêter, et avec ces rebonds, certaines personnes ont été éjectées de la cabine. Celle que j'ai vue était toute vraisemblablement jeune.
Seuls 2 enfants sont alors encore vivants. Ils sont conduits à l'hôpital en urgence absolue. L'un d'eux a succombé hier soir à ses blessures. Ce drame serait dû à une rupture de câble. L'attraction touristique avait pourtant été fermée entre 2014 et 2016 pour des travaux de maintenance. Le parquet de Milan a ouvert une enquête pour homicide involontaire et blessure par négligence.
Caroline Baudry pour Europe 1. Et puis cette histoire assez incroyable. Le régime biélorusse accusé d'avoir détourné un avion de ligne pour arrêter un opposant. Un jeune homme de 26 ans qui était à bord d'un vol commercial Vilnius-Athènes. L'avion a été contraint par des avions de chasse de se poser à Minsk où l'opposant a été arrêté. La communauté internationale est outrée et demande sa libération.
On va y revenir longuement dans le journal de 8h, bien sûr. Retour en France à présent et comment analyser la saison du Paris Saint-Germain. On pourrait dire mi-figue, mi-raisin.
Oui, il y a exactement la déception de perdre le titre de champion de Ligue 1, mais au chapitre des satisfactions, il y a évidemment cette victoire en Coupe de France, la joie aussi d'avoir atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en battant de grosses écuries. En tout cas, c'est comme ça que le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, veut voir les choses.
Première chose, je veux féliciter Lille. On a fait une très bonne saison, on est mérité. On est fair play, vraiment, on est mérité, on a fait une bonne saison.
On peut parler d'échec, président, ou pas ?
Non, je pense que cette saison, on a battu Manchester United, Barcelone, Bayern Munich. Il y a beaucoup de choses positives aussi, c'est vrai. C'est déçu sur où on n'a pas gagné le championnat, mais Lille est mérité. On n'a pas fait ce qu'on a besoin de faire pour gagner le championnat, c'est tout.
Vous avez noté le « mais ». Il y a donc de bonnes nouvelles pour Nasser
Al-Khelaïfi. C'est une super saison. On est content. Bon, le Paris Saint-Germain qui avait chuté en Ligue des Champions face à Manchester City, le club préféré des frères Gallagher. Ça tombe bien puisqu'on parle du groupe Oasis ce matin.
Avec un livre « Oasis, la revanche des ploucs ». Rien de très péjoratif. Au contraire, les frères Gallagher ont toujours revendiqué leur appartenance à un milieu prolétaire. Fiche de lecture avec Angèle Châtelier qui a rencontré les deux auteurs Benjamin Durand et Nico Pratt.
La vie des frères Gallagher, elle n'aurait jamais dû être ce qu'elle était. C'est la vie de deux petits délinquants dans un Manchester plutôt pauvre, en tout cas prolétaire. Ça les a encouragés à devenir des icônes pour les gens comme eux.
Et dans le livre « Oasis ou la revanche des ploucs », le journaliste Nico Pratt rappelle que Noël et Liam Gallagher ont grandi sous la politique libérale de Margaret Thatcher et que leur groupe, né à la fin de son ère, chante l'espoir d'une jeunesse jusqu'alors désenchantée à la recherche de sa liberté.
Ils ont grandi avec un pouvoir politique qui, au fil des décisions, leur disait « vous ne comptez pas ». Eux-mêmes le disent, on nous prenait pour des ploucs et regardez où on est arrivé. Les ploucs d'hier, ces gens pas très beaux, pas très aimables, que vous ne regardiez même pas dans la rue, bah finalement, quelques années plus tard, vous faites la queue pour acheter leurs disques.
Ces ploucs, comme il dit, nés en banlieue de Manchester, d'un père ouvrier, violent et d'une mère courage qui s'en échappe, ont malgré tout vendu 60 millions d'albums dans le monde.
La Brit pop populaire, ça prend tout son sens hein, avec les ploucs Gallagher.
Et vous allez l'avoir dans la tête. Don't look back in anger,
Oasis. Absolument.
Sur Europe 1, 7h37. Merci beaucoup, Lénaïc Monnier. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Lille, champion de France de football. Le LOSC qui s'empare d'un titre que le PSG croyait sans doute sien en début de saison. Et ce matin sur Europe 1, une exclusivité. Un champion. Le président de Lille, Olivier Létang, c'est le tête-à-tête Europe Matin dans un instant. Mais d'abord, la touche âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, doit-on avoir un avis sur tout ? Je vous donne le mien dans un instant.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h41 sur Europe 1, c'est l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, attendez, je me concentre. Est-ce que vous savez ce qu'est l'ultra-crépidarianisme ? Au-delà d'être un mot difficilement prononçable en lundi matin, enfin 7h40, et pourtant j'ai réussi. Ce nom est celui du sport national. C'est cette capacité à avoir et donner un avis sur tout. Et dans cette discipline...
Oh les champions !
On est plus de 67 millions de champions à jouer au café, sur les réseaux, sur les chaînes info. C'est un immense multiplex, des matchs partout, tout le temps. Et alors depuis le Covid, même les plus réticents s'y sont mis. Les ultra crépidariens jouent sur tous les terrains. La pandémie, ils donnent leur avis. Le conflit israélo-palestinien, ils donnent leur avis. La crypto-monnaie, les vaccins, le gluten, Benzema, l'écriture inclusive, la planche à voile. Ils ont un avis sur tout et le donnent, même quand on ne les sollicite pas. Les ultra-crépidariens ont un CV long comme le bras. Ils sont à la fois épidémiologistes, sélectionneurs des Bleus et spécialistes en géopolitique et plus experts que les experts eux-mêmes. Alors vous allez me dire que tout le monde n'est pas toutologue. Oui, ça c'est le nom quand on veut prendre moins de risques niveau orthophonie. Dieu merci, non, tout le monde ne pense pas que son avis mérite d'être entendu. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, même quand vous ne voulez pas entrer sur le terrain, on vous y contraint. Hier, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était l'invité de nos voisins d'RTL. Il a évoqué pêle-mêle Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, François Hollande, Donald Trump, Marine Le Pen, Matteo Salvini, mais également, attention...
C'est à la commission de déontologie de l'Eurovision de trancher s'il y a problème. Moi, je ne veux pas m'immiscer dans ce jury, ce n'est pas ma compétence.
Jean-Yves Le Drian a parlé de l'Eurovision et de la polémique autour du gagnant italien accusé d'avoir consommé de la cocaïne devant les caméras. Alors comment le ministre se retrouve à parler de ça ? Eh bien c'est parce qu'on lui a demandé son avis. Mais vous avez entendu sa réponse, ce n'est pas ma compétence. Phrase qu'on n'avait pas entendue dans les médias depuis... Bon, ça doit se dater au carbone 14. Mais un invité qui donne pas son avis, ça ne plaît pas. Réaction des journalistes.
Ouais. Il n'y a pas de position officielle sur cette émission de télévision, donc.
Vous ne souhaitez pas qu'il soit testé, cette.
Écoutez, je pense qu'il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Je pense que l'Eurovision a la responsabilité de l'honneur de ce concours. Et s'il y a besoin de faire des tests, ils feront les tests.
Voilà, et finalement, ils ont réussi à lui faire donner un avis sur le sujet. Alors moi, je propose quelque chose, et c'est pour ça que je vous parle d'ultra-crépidarianisme ce matin. En voyant les sujets qui ont fait parler ce week-end, la vidéo du président avec McFly et Carlito, l'Eurovision, ou encore cette tendance rapportée par Libé qui consiste à se faire bronzer le périnée, passons là-dessus. En voyant ces sujets,
ne gâchons pas une chronique entière.
Bah oui, non, il y a encore des gens qui arrivent. En voyant ces sujets, je me suis senti con, nul, inutile, mince. Il y a des sujets sur lesquels j'ai pas d'avis tranché. Et si j'en ai, je suis pas certain qu'ils intéressent tout le monde. À quoi je vais servir au café et sur les réseaux? S'en est suivi une crise existentielle dont je vous épargne les détails. D'où ma proposition, est-ce qu'on n'instaurerait pas une sorte de jour férié de l'ultra-crépidarianisme? Un jour où on se sentirait pas obligé d'avoir et de donner son avis sur tout? Et plus généralement, est-ce que on se détendrait pas de la réaction permanente en se disant que non, c'est pas grave de pas avoir un avis sur tout. Ça ferait du bien. Mais d'un autre côté, est-ce que proposer ça, ce n'est pas quelque part donner son avis? Et est-ce que dire qu'on n'a pas d'avis n'est pas déjà un avis en soi? À cet instant, je réalisais que cela faisait beaucoup trop de questions posées pour un jour férié. Je m'en allais prendre un ASPJ en vous souhaitant une bonne journée.
Ultra crépidarianisme.
Bien joué.
Ah oui, j'ai un avis sur tout. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. C'est tous les matins à 7h40, La Touche Âme. Et sur Europe 1 à nouveau à 10h. Avec Philippe Vandel, même les jours fériés.
Toujours,
vous serez là tout à l'heure, 10h, Culture Média. Merci Bertrand, il est 7h44.
Europe Matin, le 7-9.
Lille, champion de France de football. Les plus hauts de France, lit-on à la une de l'équipe ce matin. Le trophée de la Ligue 1 quitte Paris pour le Nord. Et ce matin, c'est une exclusivité Europe 1, tête-à-tête spéciale. La joie, les fans et l'avenir du club. Olivier Létang, président du LOSC, a bien voulu répondre aux questions de notre chef du service des sports, Jean-François Pérez. Et son entretien exclusif avec le champion, le président Olivier Létang.
Bonjour Olivier Létang, merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors d'abord, quel est l'état d'esprit du groupe, de l'équipe, après ce titre aussi extraordinaire qu'inattendu pour le LOSC?
D'abord, c'est beaucoup de joie, parce qu'on fait ces métiers-là aussi pour vivre des émotions, transmettre aussi ces mêmes émotions, donner de la passion à toute une communauté. Donc ça, c'est le premier sentiment, parce qu'ils nous ont manqué. Ils nous ont manqué toute la saison, ils n'ont pas été là. On a vu que sur les dernières semaines, il y a eu un engouement populaire du côté de Lille, de la métropole. Et on tient à remercier toute notre communauté, et on était déçus effectivement qu'ils ne soient pas là avec nous au quotidien. Et après, c'est un très grand exploit, parce que être champion de France devant le Paris Saint-Germain, on s'aperçoit que depuis 10 ans, finalement, il y a Montpellier en 2012, il y a Monaco en 2017 et depuis, plus rien. Donc, c'est pas une coupe, c'est sur tout un championnat, 38 journées. Et sincèrement, je pense vraiment que le LOSC mérite ce titre de champion de France.
À votre avis, au final, pourquoi le LOSC est-il champion ce lundi matin devant les favoris, devant le PSG, évidemment, notamment? Comment l'expliquer?
Bah, c'est aussi pour moi l'occasion de tirer un grand coup de chapeau à Christophe Galtier, à son staff et puis à des joueurs qui finalement n'ont jamais rien lâché. Et l'approche d'un certain nombre de matchs, je pense au match à Paris, on sortait d'une défaite à domicile contre Nîmes, le match à Lyon et puis la préparation de cette semaine. Donc encore une fois, un grand coup de chapeau à Christophe, le staff et puis ce groupe de joueurs. On peut se regarder tous droit dans les yeux en disant que le travail était très bien fait.
Lille champion, Olivier Létang, vous le citez, c'est le travail du coach Christophe Galtier.
Moi je connaissais Christophe, on avait des relations auparavant et on avait des très bonnes relations, mais c'est vrai que quand on travaille ensemble après ça peut être différent. Donc la relation avec Christophe est fantastique. Moi je suis ravi de l'avoir à mes côtés comme entraîneur d'un point de vue professionnel mais aussi d'un point de vue humain. Voilà, on profite, j'ai toujours du mal moi aussi à profiter d'un point de vue personnel, mais un grand coup de chapeau à Christophe, au staff, aux joueurs, et je suis très heureux pour tout un club et toute une communauté.
Alors ce n'est que le quatrième titre de champion de toute l'histoire du foot lillois, de l'histoire du LOSC. Et Olivier Létang, vous venez à peine d'arriver aux commandes du club. C'était il y a quelques mois seulement, c'est incroyable.
Oui, c'était. On avait quelque chose en tête effectivement en arrivant, mais avec les joueurs, dès le mois de décembre, on a dit on ne veut pas entendre parler du titre, parce qu'on avait un groupe jeune finalement qui n'a pas forcément gagné beaucoup en club, et on avait deux joueurs qui avaient gagné un titre en club. Et battre le Paris Saint-Germain aujourd'hui sur 38 journées, c'est un véritable exploit, mais comme je disais tout à l'heure, le titre est largement mérité.
Mais justement, avec ce staff qui est arrivé il y a quelques mois, quelle part du succès, Olivier Létang, vous accordez-vous dans ce triomphe, dans dans ce titre de champion de France?
Moi, je me mets en retrait parce que je suis là pour apporter autre chose, mais je préfère encore une fois mettre en avant Christophe, le staff, les joueurs pour ce grand travail. On va savourer, donc quand on a des résultats positifs comme cela, il faut en profiter. Et puis en tant que dirigeant, on bascule déjà sur la suite.
Alors, il y aura des célébrations, hein, vous en parlez, Olivier Létan, mais avec le contexte sanitaire, il va falloir se restreindre sans doute. Est-ce que vous auriez aimé faire quelque chose de plus important?
Oui, je parlais tout à l'heure de notre communauté qui nous manque parce qu'il y a eu ces résultats. Ils ont toujours été présents finalement, mais... pas comme on l'aurait souhaité, on aurait vraiment aimé qu'ils vivent ces moments avec nous dans le stade. On vit une période particulière, complexe, difficile, entre le contexte sanitaire, le contexte économique qui en découle. Et c'est vrai que le football est un formidable outil parce que c'est le meilleur créateur de liens sociaux populaires, c'est celui qui rassemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comment transmettre des émotions, comment effectivement apporter beaucoup de passion, et on s'aperçoit qu'il faut beaucoup travailler, mais à la fin, voilà, on va pouvoir célébrer avec que, pas comme on le souhaiterait, puisque le contexte sanitaire fait que on ne pourra pas faire tout ce que l'on veut, parce qu'il y a toujours des gestes barrières à respecter, il y a toujours un certain nombre de choses, mais l'idée c'est quand même de profiter déjà avec le groupe d'hommes et de femmes du club, et puis en profiter également au maximum avec notre communauté.
Vous appelez du coup vos supporters à la modération aujourd'hui malgré tout dans leur célébration?
Oui, je pense qu'il faut faire attention à ce fameux contexte sanitaire. Après, vous savez, des moments comme cela, il faut aussi les vivre, il faut les vivre parce que la vie c'est aussi la passion. Et vous évoquiez tout à l'heure le fait que ce soit simplement le quatrième titre de champion de France pour le LOSC. Donc voilà, il faut malgré tout que tout le monde puisse en profiter.
Olivier Létan, vous avez été dirigeant du Paris Saint-Germain, rappelons-le. Vous êtes désormais à Lille. Est-ce qu'on peut trouver des points communs entre ces deux clubs au sommet de la Ligue 1?
Non, parce que le Paris Saint-Germain est un club hors norme, avec une puissance économique qui est sans commune mesure avec ce qui se passe dans les autres clubs. Et aujourd'hui, moi je suis 100% lillois, je suis ravi effectivement d'être à la tête de ce club. En arrivant le 21 décembre, j'avais dit que pour moi la priorité était le terrain, était de préserver la dynamique sportive. Et j'avais dit effectivement, malgré ce qu'on pouvait entendre, que des joueurs allaient partir, qu'il fallait vendre. Et j'avais tout de suite dit que nous ne vendrions pas de joueurs. Et probablement qu'on en parlait avec Christophe, c'est assez marrant, il y a une dizaine de jours, si on avait vendu deux joueurs parce qu'on avait déjà des sollicitations, probablement qu'on n'aurait pas fêté ce titre. Donc pour moi, la pile atomique d'un club, ça reste le sportif, les résultats sportifs, et on va bien profiter de ce formidable titre.
Le coach, j'en reparle, Christophe Galtier qui disait hier soir en conférence de presse qu'il a besoin de réfléchir, de parler avec vous, sans doute dès aujourd'hui, hein, vous les dirigeants du club, pour son avenir. Est-ce que vous avez espoir de le garder LOSC la saison prochaine?
Avec Christophe, quand je parle de relations personnelles et professionnelles formidables, Christophe l'a aussi dit, nous on échange en permanence, beaucoup. On est ravis de la collaboration, donc le moment n'est pas à évoquer les cas individuels, que ce soit les joueurs, l'entraîneur ou d'autres personnes. Donc voilà, on veut savourer, on veut profiter. L'objectif c'est d'avoir une équipe compétitive de toute façon la saison prochaine, mais vraiment le moment est vraiment à la communion, à la célébration plutôt que de parler d'autre chose.
Et puis j'aimerais un dernier mot sur l'équipe de France qui va entamer l'Euro dans quelques jours. Le gardien, votre gardien Mike Maignan, fait partie des joueurs retenus par Didier Deschamps, des 26 joueurs en quelques mots. Est-ce que vous pensez que cette équipe de France peut aller au bout après que Lille ait été sacré champion de France?
On est tous supporters de l'équipe de France, toujours, quand il y a une compétition internationale, ça c'est le premier point. Il me semble que l'équipe de France a probablement le plus bel effectif de la compétition, quand on regarde, avec un effectif qualitatif, quantitatif fourni à tous les postes, donc on souhaite le meilleur à l'équipe de France. Moi je me concentre sur le LOSC, je serai supporter de l'équipe de France, en espérant qu'elle aille le plus loin possible.
Merci beaucoup Olivier Létan pour avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Très bonne journée à tous les auditeurs d'Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Olivier Létan, le président du LOSC en exclusivité sur Europe 1 ce matin au micro, bien sûr, de Jean-François Pérez, notre chef du service des sports. 7h52, dans un instant, l'édito politique, Michaël Darmon. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h55. Allez.
L'édito politique de Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Mickaël.
Bonjour, bonjour à tous.
Le président de la République, hier, a reçu les deux influenceurs McFly et Carlito, les vedettes des réseaux sociaux. Il leur avait promis un concours d'anecdotes à l'Élysée en contrepartie d'une chanson qu'ils ont faite sur les gestes barrières ayant obtenu plus de 10 millions de vues. On a donc vu Emmanuel Macron jouer le jeu, loin des codes officiels de la communication présidentielle. Et pourtant, vous nous dites qu'il s'agit plutôt d'un grand classique. Pourquoi ?
Parce que pour les présidents français, chercher à parler aux jeunes, c'est une tradition. Ouvrez les grimoires des opérations de communication de l'Élysée, vous y retrouvez la fameuse recette de François Mitterrand, interviewée en 1985 par un Yves Mourouzi, une fête sur un bureau présidentiel, et un président reprenant le journaliste en expliquant les termes branché et chébran. C'était du jamais vu, une scène écrite au cordeau et répétée avec le grand maître en communication de l'époque, Jacques Pilan, qui conseillait l'Élysée et le président. Il s'agissait à l'époque de redorer l'image du président auprès de la jeune génération. En fait, chaque président a besoin de montrer qu'il est en lien avec son époque et on peut retrouver ainsi des initiatives similaires pour les autres présidents.
Donc rien de nouveau sous le soleil de la communication et puis Yves Mourouzi n'est plus, soit dit en passant. Pourtant, on peut noter une particularité avec Emmanuel Macron. Il a l'air particulièrement à son aise dans son exercice. C'est un acteur.
N'oublions pas qu'il a une formation théâtrale très poussée. Il est le président de la génération des selfies et de l'autoportrait. Il comprend cette génération qui aime se mettre en scène. L'égologie est un fait contemporain et Emmanuel Macron est un président contemporain. Il communique depuis son élection sur les réseaux sociaux en leur donnant un statut à part entière aux côtés des médias traditionnels. Depuis le début de son mandat, ses journées sont suivies, il faut le savoir, en continu sur un compte tenu par l'Élysée. Il est le président Instagram et ça lui permet d'entretenir le lien avec les jeunes.
La question, c'est est-ce que ça peut lui servir politiquement ? Bon, 2022, c'est l'année prochaine bien sûr, tout le monde l'a compris, mais la vidéo a été vue plus de 6 millions de fois hier.
Alors ça, c'est là la vraie prise de risque politique, Mathieu, parce que c'est celui de confondre le risque audience et adhésion. Et de mettre sur le même plan, on va dire, le fait qu'on a beaucoup regardé et du coup qu'on serait d'accord. Les jeunes se partagent les vidéos. Sur le plan de leur modèle économique, McFly et Carlito ont tout gagné. Mais se partager des vidéos, faire des likes, c'est pas des bulletins de vote, ça n'est pas la même chose. À l'heure du déconfinement, Emmanuel Macron s'est offert un moment de détente avec des jeunes très réussis, il faut le dire. Pour le reste, il faudra quand même régler les problèmes d'une génération déjà précaire qui a beaucoup souffert avec le Covid. Et pour sa campagne de réélection, François Mitterrand avait eu le chanteur Renaud et un surnom sympathique qui lui avait été affublé, Tonton. Alors on verra si les influenceurs auront un jour envie de lancer le slogan « Macron, laisse pas béton ».
Votre édito politique, merci beaucoup Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Il est 7h58, dans un instant la météo, Laurent Cabrol et le journal de 8h, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9,
Mathieu 7h59 Béliard. Sur Europe 1.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
De la pluie, de la pluie, de la pluie. Il y en a même en ce moment, je l'ai dit tout à l'heure, mais d'une manière un peu rapide, sur la région PACA, oui, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons de la pluie qui vient de la Méditerranée, où en Méditerranée il pleut beaucoup. Et puis il y a cette grosse perturbation de 300 km de large qui traverse actuellement le pays. Quand elle est passée, oh, vous n'êtes pas débarrassé, vous avez simplement des averses, des orages et des giboulées. Et puis cette perturbation, je vous dirai cela tout à l'heure, mais elle traversera le pays tout au long de la journée, de sorte que prévoyez, quoi qu'il en soit avant ce soir, de la pluie pour vous, excepté sur le golfe du Lion. Les températures maximales entre 16 et 22 degrés, 16 à Paris, 22 à Lyon.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.